Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Le Grand Maulne, chapitre 9. Une halte. Soudain, la jument ralentit son allure comme si son pied avait buté dans l'ombre. Maulne vit sa tête plonger et se relever par deux fois, puis elle s'arrêta net, les naseaux bas, semblant humer quelque chose. Autour des pieds de la bête, on entendait comme un clapotis d'eau. Un ruisseau coupait le chemin. En été, ce devait être un gué, mais à cette époque, le courant était si fort que la glace n'avait pas pris et qu'il eût été dangereux de pousser plus avant. Maulne tira doucement sur les guides pour reculer de quelques pas et, très perplexe, se dressa dans la voiture. C'est alors qu'il aperçut entre les branches une lumière. Deux ou trois prés seulement devaient la séparer du chemin. L'écolier descendit de voiture et ramena la jument en arrière, en lui parlant pour la calmer, pour arrêter ses brusques coups de tête effrayés.
« Allons, ma vieille, allons! Maintenant nous n'irons pas plus loin. Nous saurons bientôt où nous sommes arrivés. »
Et, poussant la barrière entr'ouverte d'un petit pré qui donnait sur le chemin, il fit entrer là son équipage. Ses pieds enfonçaient dans l'herbe molle, la voiture cahotait silencieusement, sa tête contre celle de la bête, il sentait la chaleur et le souffle dur de son haleine. Il la conduisit tout au bout du pré, lui mit sur le dos la couverture, puis, écartant les branches de la clôture du fond, il aperçut de nouveau la lumière, qui était celle d'une maison isolée. Il lui fallut bien tout de même traverser trois prés, sauter un traître petit ruisseau où il faillit plonger les deux pieds à la fois. Enfin, après un dernier saut du haut d'un talus, il se trouva dans la cour d'une maison campagnarde. Un cochon grognait dans son thé, au bruit des pas sur la terre gelée, un chien se mit à aboyer avec fureur. Le volet de la porte était ouvert et la lueur que Maulne avait aperçue était celle d'un feu de fagot allumé dans la cheminée. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle du feu. Une bonne femme, dans la maison, se leva et s'approcha de la porte sans paraître autrement effrayée. L'horloge à poids, juste à cet instant, sonna la demie de 7 heures.
« Excusez-moi, ma pauvre dame, » dit le grand garçon, « je crois bien que j'ai mis le pied dans vos chrysanthèmes. »
Arrêtée, un bol à la main, elle le regardait.
« Il est vrai, dit-elle, qu'il fait noir dans la cour à ne pas s'y conduire. »
Il y eut un silence pendant lequel Maulne, debout, regarda les murs de la pièce tapissée de journaux illustrés comme une auberge et la table sur laquelle un chapeau d'homme était posé.
« Il n'est pas là, le patron ? » dit-il en s'asseyant.
« Il va revenir, » répondit la femme mise en confiance. « Il est allé chercher un fagot. »«
Ce n'est pas que j'ai besoin de lui, » poursuivit le jeune homme en rapprochant sa chaise du feu. « Mais nous sommes là plusieurs chasseurs à l'affût. Je suis venu vous demander de nous céder un peu de pain. »
Il savait, le grand Maulne, que chez les gens de campagne et surtout dans une ferme isolée, il faut parler avec beaucoup de discrétion, de politique même, et surtout ne jamais montrer qu'on n'est pas du pays.
« Du pain ?» dit-elle. « Nous ne pourrons guère vous en donner. Le boulanger qui passe pourtant tous les mardis n'est pas venu aujourd'hui. »
Augustin, qui avait espéré un instant se trouver à proximité d'un village, s'effraya.
« Le boulanger de quel pays ? » demanda-t-il.
« Eh bien, le boulanger du vieux Nançay, » répondit la femme avec étonnement.
« C'est à quelle distance d'ici, au juste, le vieux Nançay ? »
poursuivit Maulne très inquiet.
« Par la route, je ne saurais pas vous dire, au juste, mais par la traverse, il y a 3 lieues et demie. »
Et elle se mit à raconter qu'il y avait sa fille en place, qu'elle venait à pied pour la voir tous les premiers dimanches du mois, et que ses patrons... Mais Maulne, complètement dérouté, l'interrompit pour dire.
« Le vieux Nançay serait-il le bourg le plus rapproché d'ici ?»«
Non, c'est les Landes, à 5 kilomètres. »
Mais il n'y a pas de marchand ni de boulanger. Il y a tout juste une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin.
Moln n'avait jamais entendu parler des Landes. Il se vit à tel point égaré qu'il s'en fut presque amusé. Mais la femme, qui était occupée à laver son bol sur l'évier, se retourna, curieuse à son tour, et elle dit lentement, le regardant bien droit. « C'est-y que vous n'êtes pas du pays ?» À ce moment, un paysan âgé se présenta à la porte avec une brassée de bois qu'il jeta sur le carreau. La femme lui expliqua très fort, comme s'il eût été sourd, ce que demandait le jeune homme.
« Eh bien, c'est facile, » dit-il simplement. « Mais approchez-vous, monsieur, vous ne vous chauffez pas. »
Tous les deux, un instant plus tard, ils étaient installés près des chenets. Le vieux cassant son bois pour le mettre dans le feu, Moln mangeant un bol de lait avec du pain qu'on lui avait offert. Notre voyageur, ravi de se trouver dans cette humble maison après tant d'inquiétude, pensant que sa bizarre aventure était terminée, faisait déjà le projet de revenir plus tard avec des camarades revoir ces braves gens. Il ne savait pas que c'était là seulement une halte, et qu'il allait tout à l'heure reprendre son chemin. Il demanda bientôt qu'on le remît sur la route de la Motte, et, revenant peu à peu à la vérité, il raconta qu'avec sa voiture il s'était séparé des autres chasseurs et se trouvait maintenant complètement égaré. Alors l'homme et la femme insistèrent si longtemps pour qu'il restât couché et repartit seulement au grand jour, que Moln finit par accepter et sortit chercher sa jument pour la rentrer à l'écurie.
« Vous prendrez garde au trou de la Sente, » lui dit l'homme.
Moln n'osa pas avouer qu'il n'était pas venu par la Sente. Il fut sur le point de demander au brave homme de l'accompagner. Il hésita une seconde sur le seuil, et si grande était son indécision qu'il faillit chanceler. Puis il sortit dans la cour obscure. Fin du chapitre 9. Chapitre 10. La bergerie. Pour s'y reconnaître, il grimpa sur le talus d'où il avait sauté. Lentement et difficilement, comme à l'aller, il se guida entre les herbes et les eaux, à travers les clôtures de saules, et s'en fut chercher sa voiture dans le fond du pré où il l'avait laissée. La voiture n'y était plus. Immobile, la tête battante, il s'efforça d'écouter tous les bruits de la nuit, croyant à chaque seconde entendre sonner tout près le collier de la bête. Rien. Il fit le tour du pré. La barrière était à demi ouverte, à demi renversée, comme si une roue de voiture était passée dessus. La jument avait dû, par là, s'échapper toute seule. Remontant le chemin, il fit quelques pas et s'embarrassa les pieds dans la couverture qui sans doute avait glissé de la jument à terre. Il en conclut que la bête s'était enfuie dans cette direction. Il se prit à courir. Sans autre idée que la volonté tenace et folle de rattraper sa voiture, tout le sang au visage, en proie à ce désir panique qui ressemblait à la peur, il courait. Parfois son pied butait dans les ornières. Au tournant, dans l'obscurité totale, il se jetait contre les clôtures et, déjà trop fatigué pour s'arrêter à temps, s'abattait sur les épines, les bras en avant, se déchirant les mains pour se protéger le visage. Parfois, il s'arrêtait, écoutait et repartait. Un instant, il crut entendre un bruit de voiture, mais ce n'était qu'un tombereau cahotant qui passait très loin sur une route à gauche. Vint un moment où son genou, blessé au marchepied, lui fit si mal qu'il dut s'arrêter, la jambe raidie. Alors il réfléchit que si sa jument ne s'était pas sauvée au grand galop, il l'aurait depuis longtemps rejointe. Il se dit aussi qu'une voiture ne se perdait pas ainsi et que quelqu'un la retrouverait bien. Enfin, il revint sur ses pas, épuisé, colère, se traînant à peine. À la longue, il crut se retrouver dans les parages qu'il avait quittés et bientôt il aperçut la lumière de la maison qu'il cherchait. Un sentier profond s'ouvrait dans la haie. « Voilà la Sente dont le vieux m'a parlé, » se dit Augustin. Et il s'engagea dans ce passage, heureux de n'avoir plus à franchir les haies et les talus. Au bout d'un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser à droite, et parvenu à un croisement de chemin, Maulne, dans sa hâte à regagner le pauvre logis, suivit sans réfléchir un sentier qui paraissait directement y conduire. Mais à peine avait-il fait 10 pas dans cette direction que la lumière disparut. Soit qu'elle fût cachée par une haie, soit que les paysans, fatigués d'attendre, eussent fermé leur volet. Courageusement, l'écolier sauta à travers champs, marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brillé tout à l'heure. Puis, franchissant encore une clôture, il retomba dans un nouveau sentier. Ainsi, peu à peu, s'embrouillait la piste du grand Maulne et se brisait le lien qu'il attachait à ceux qu'il avait quittés. Découragé, presque à bout de force, il résolut, dans son désespoir, de suivre ce sentier jusqu'au bout. À 100 pas de là, il débouchait dans une grande prairie grise où l'on distinguait de loin en loin des ombres qui devaient être des genévriers et une bâtisse obscure dans un repli de terrain. Maulne s'en approcha, ce n'était là qu'une sorte de grand parc à bétail ou de bergerie abandonnée. La porte céda avec un gémissement. La lueur de la lune, quand le grand vent chassait les nuages, passait à travers les fentes des cloisons, une odeur de moisi régnait. Sans chercher plus avant, Maulne s'étendit dans la paille humide, le coude à terre, la tête dans la main. Ayant retiré sa ceinture, il se recroquevilla dans sa blouse, les genoux au ventre. Il songea alors à la couverture de la jument qu'il avait laissée dans le chemin, et il se sentit si malheureux, si fâché contre lui-même, qu'il lui prit une forte envie de pleurer. Aussi s'efforça-t-il de penser à autre chose. Glacé jusqu'aux moelles, il se rappela un rêve, une vision plutôt, qu'il avait eue tout enfant et dont il n'avait jamais parlé à personne. Un matin, au lieu de s'éveiller dans sa chambre où pendaient ses culottes et ses paletots, il s'était trouvé dans une longue pièce verte aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu coulait une lumière si douce qu'on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil. Il n'avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s'était rendormi, mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être. Fin du chapitre 10. Chapitre 11. Le domaine mystérieux. Dès le petit jour, il se reprit à marcher, mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était, d'ailleurs, le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler et essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et, sur cette solitude parfaite, brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. « Quelque vieux manoir abandonné, se dit-il, quelque pigeonnier désert. » Et, sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouchait, entre 2 poteaux blancs, une allée où Maulne s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta, plein de surprise, trouble d'une émotion inexplicable. Il marchait pourtant du même pas fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants. Et pourtant, un contentement extraordinaire le soulevait. une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. C'est ainsi que, jadis, la veille des grandes fêtes d'été, il se sentait défaillir lorsqu'à la tombée de la nuit on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches. « Tant de joie !» se dit-il. « Parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier plein de hiboux et de courants d'air !» Et fâché contre lui-même, il s'arrêta, se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village. Il réfléchissait depuis un instant la tête basse lorsqu'il s'aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers comme on faisait chez lui pour les fêtes. Il se trouvait dans un chemin pareil à la grande rue de la Ferté, le matin de l'Assomption. Il eut aperçu, au détour de l'allée, une troupe de gens en fête, soulevant la poussière comme au mois de juin, qu'il n'eût pas été surpris davantage. « Y aurait-il une fête dans cette solitude ?» se demanda-t-il. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'était des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Maulne, bien qu'il ne comprît guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. « Une seule chose m'inquiète, » disait-elle. « C'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. »
« Jamais on ne m'en empêchera !» répondit une voix moqueuse de jeune garçon. « Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions, même celle de nous faire mal, s'il nous plaît ?»
Et les voix s'éloignèrent au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants.
« Si la glace est fondue, » dit une fillette, « demain matin, nous irons en bateau. »«
Mais nous le permettra-t-on ? » dit une autre. « Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. »
« Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée ?»«
Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. »«
Il s'agit d'une noce, sans doute, » se dit Augustin. « Mais ce sont les enfants qui font la loi, ici. »
Étrange domaine. Il voulut sortir de sa cachette pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient trois fillettes avec des robes droites qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou, à toutes les trois. L'une d'elles, à demi retournée, un peu penchée, écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications, le doigt levé.
« Je leur ferai peur, » se dit Maulne, en regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de Sainte-Agathe.
Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes. De fines petites voitures à quatre places, les brancards en l'air, des chars à bancs, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées. Maulne, caché derrière les sapins de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut char à bancs, une fenêtre des annexes à demi ouverte. Deux barreaux de fer, comme on en voit derrière les domaines aux volets toujours fermés des écuries, avaient dû clore cette ouverture, mais le temps les avait décellés. « Je vais entrer par là, » se dit l'écolier. « Je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. » Il franchit le mur péniblement à cause de son genou blessé et,
passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un char à banc sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre, qu'il poussa sans bruit comme une porte. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas, qui devait être une chambre à coucher. On distinguait dans la demi-obscurité du soir d'hiver que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix, d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve. Maul n'avait fermé la fenêtre tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine. Par instant seulement, on entendait gémir le grand vent de décembre. Et Maulne, étendu, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là, simplement, comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. « On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, » pensa-t-il. Mais, laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. Fin du chapitre 11.